Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Bonjour Christian Clairet.
Bonjour.
Bonjour Jean-Christophe Vizier.
Bonjour.
Je crois avoir décelé trois objectifs du groupe RBRT du plan bâtiment durable. Éclairer à moyen terme le chemin des professionnels de la filière, qui sont, comme tout un chacun, concentrés par leurs tâches quotidiennes sur le court terme. Faire progresser la compréhension des enjeux, notamment en essayant d'atténuer les silos, de désiloter les métiers et leurs formations, et en croisant les transitions et les relations entre ces transitions. Et puis évaluer et, si possible, favoriser l'alignement des logiques publiques et de l'agilité du privé. Alors, ma première question est pour Christian Clairet. Pourquoi avoir décidé de se focaliser sur le bâtiment ? Est-ce que, d'une certaine façon, ce n'était pas risqué de privilégier la filière construction sur la filière immobilier ?
La question est très intéressante, car elle met sans doute en lumière un acte manqué ou quelque chose de subliminal, car notre intention et notre pratique est nullement de s'intéresser au seul bâtiment. Mais le fait qu'on l'ait nommé bâtiment traduit à l'évidence quelque chose, et vous avez mis avec votre capacité chirurgicale à déceler les problèmes, vous avez mis le doigt sur une vraie question. En fait, nous travaillons sur l'immobilier. L'exemple des différents thèmes que nous avons traités le montre bien. Lorsque l'on traite dans nos travaux, par exemple, la question de la valeur et de l'obsolescence de l'immobilier, c'est bien de l'immobilier dont nous parlons. Mais pour autant, on voit bien, et nos travaux le mettent bien en lumière, qu'on a quand même quelques murailles et quelques problèmes de silos à traiter. Le plus connu d'entre eux est évidemment le silo que tout le monde connaît, enfin le mur qui existe entre le monde de l'immobilier dans ses aspects juridiques et financiers et le monde du BTP, hein, le monde de la construction, plus technique, plus scientifique, plus ingénieur. Ce clivage-là est très très connu. Il y a un autre clivage que l'on mesure bien et on met le doigt dessus dans nos travaux, dans la capacité à fluidifier la relation, à rendre souple et fluide le questionnement. C'est quand même une certaine distance entre le monde de la finance pure et le monde de l'immobilier. Il y a d'une certaine façon la finance qui décide et qui se tient un tout petit peu à l'écart de nos réflexions et des structures qui sont plus dans la finance opérationnelle, qui, elles, sont très, très présentes. Mais cette question est très, très importante et on doit bien avoir, et c'est vraiment la conviction profonde de notre groupe, le souci de désiloter. Vous avez parfaitement résumé la vocation du groupe RBR dans votre propos introductif, et on doit avoir ce souci permanent de désiloter ces différentes filières.
D'accord. Alors, Jean-Christophe, le groupe a publié, je cite le titre, un label pour éclairer la route au-delà de la RE 2020. Quelles en sont les idées directrices ?
Cette note, on l'a écrite au moment où la RE 2020 sort et on se projette comme un groupe prospectif dans qu'est-ce que pourrait être l'après RE 2020 ? Et la vision qu'ont beaucoup d'acteurs, c'est de se dire le après la RE 2020, ce sera faire mieux sur le carbone. Et l'impression qu'on a au sein du groupe RBR, c'est qu'il faut réfléchir plus largement que ça. Bien évidemment, l'après RE 2020, ce sera de continuer à progresser pour aller vers des bâtiments de plus en plus bas carbone. Mais il y a d'autres enjeux. Et c'est ces autres enjeux qu'on a voulu explorer en se disant qu'un label pourrait être une belle voie pour permettre d'explorer d'autres enjeux qui nous paraissent importants. Dans ces enjeux importants, on va trouver par exemple l'économie circulaire. On va trouver tous les sujets de biodiversité qui sont en train de prendre une place importante. Bien sûr, le confort, le bien-être et la santé, mais aussi la gestion durable de l'eau, par exemple, ou l'adaptation des bâtiments aux évolutions climatiques et aux usages de demain. Donc, première idée, c'est élargissons le cadre pour avoir des bâtiments qui, certes, contribueront à la neutralité carbone, mais feront plus que ça et répondront à d'autres enjeux, à la fois environnementaux et humains. La deuxième idée qu'il y a eu également, c'est qu'il fallait toujours sortir de ces silos et que si les réglementations avaient été très centrées sur le bâtiment, il était important de penser demain des réglementations avec le bâtiment intégré dans son quartier. Et ça, c'est un point important où on trace des pistes pour aller vers non plus seulement des réglementations sur les bâtiments, sur les quartiers, mais tracer des ponts entre ces différents textes qui souvent ne sont pas suffisamment coordonnés. Et puis ensuite, on a la conviction qu'à terme, on aura intérêt à regarder de la même manière les bâtiments neufs, les bâtiments rénovés et les bâtiments en exploitation. C'est compliqué à faire, mais c'est l'enjeu auquel il faut arriver. Et pour ça, ça veut dire notamment qu'il faudra essayer d'arriver à des méthodes qui soient cohérentes entre ces différents types de bâtiments et qui permettent, par exemple, de tenir compte d'une amélioration des usages. Si vous avez un bâtiment dans lequel vous réussissez à ce que le bâtiment soit plus occupé, c'est sur le plan environnemental quelque chose d'intéressant qui, pour l'instant, n'est absolument pas pris en compte dans les règles. Donc voilà quelques-unes des pistes qu'on a tracées dans cette note pour essayer d'éclairer ce que pourrait être un futur label.
Merci. On voit bien en effet à quel point les changements de paradigme, les déplacements du regard sont précieux et j'ai envie de dire brutalement ne coûtent rien finalement. C'est-à-dire que pour ouvrir à la réflexion et pour enrichir les idées, c'est effectivement. Et alors, il y en a justement, Christian, une note qui m'a tout à fait interpellé puisque vous avez publié l'immobilier partie prenante de la mobilité renouvelée. Alors, d'abord, j'ai envie de dire en hommage au regretté Alain Rey, immobilier, mobilité, immobile, mobile, évidemment ça interpelle, et déjà ce choc en lui-même est assez fructueux, mais j'ai aussi envie de dire, curieusement, cette relation a été très peu abordée, pour ne pas dire pas abordée jusqu'à aujourd'hui. On a l'impression de deux mondes complexes, extrêmement techniques, extrêmement sophistiqués, mais qui en gros ne se parlaient pas et ne se parlent peut-être toujours pas.
Oui, je pense que c'est plus qu'une impression. C'est une réalité, ce qui nous a conduit à nous en saisir. Quelques chiffres pour vraiment marquer les enjeux. Au niveau mondial, la réunion de l'immobilier et de la mobilité du quotidien. Je dis bien la mobilité du quotidien, ce n'est pas les grands transports internationaux, les déplacements du quotidien. C'est 80% de la consommation énergétique mondiale. C'est 50% de la production de gaz à effet de serre et 70% des émissions de carbone. C'est dire à quel point la réunion des deux est un enjeu majeur et qu'on peut commettre des erreurs absolument fondamentales en construisant un immobilier qui induit des déplacements très fréquents. Il y a une polémique actuelle lancée par une déclaration ministérielle sur la maison individuelle en lointaine banlieue. Elle est l'illustration criante de ce débat. Si vous habitez à 40 km de votre emploi, vous avez transport pendulaire quotidien qui peut être très très consommateur d'énergie quand bien même votre bâtiment est très très performant. Donc ceci révèle de très très nombreux enjeux, de très nombreux défis. On a vécu les gilets jaunes sur ces problèmes de transport, donc des défis sociaux, sociétaux, politiques, économiques très très importants. Et donc notre groupe a proposé 8 pistes de réflexion à l'industrie. Quand je dis à l'industrie, c'est aux industries, c'est-à-dire à l'industrie immobilière et à l'industrie, aux industriels de la mobilité, aux opérateurs de la mobilité. Je ne vais pas ici, en quelques minutes, citer les 8, c'est tout à fait impossible, mais pour en donner un petit peu les grandes lignes et la philosophie, je dirais qu'il y a une première série de réflexions. On ne propose pas des solutions. Aujourd'hui, on appelle les acteurs à débattre. À débattre et à se saisir de ces questions. Première famille de solutions, c'est autour du Faut-il construire moins? Enfin, il ne suffit pas d'adapter ou d'améliorer. Il y a la question du moins de mobilité et donc de la localisation, de la vocation des immeubles, de l'amélioration de leurs usages, toute cette famille de problématiques. La deuxième famille tourne autour de l'immeuble et son environnement et son quartier. C'est la question de la marche en ville, de la relation du bâti à son territoire, de la réexploitation des parkings, de la ville souterraine, des nouvelles mobilités. Et puis la troisième famille de questions tourne autour à la fois de la relation opérateur public-opérateur privé, public-privé dans les compétences et dans les décisions, et surtout une des questions qui, moi, me tient très très à cœur, qui est la question de la gouvernance, puisque aujourd'hui, on a en France deux gouvernances totalement indépendantes pour l'immobilier, les PLU, les permis de construire dans la main des maires, et l'organisation des transports collectifs des personnes qui sont dans la main des régions et des autorités organisatrices. Et on voit bien les polémiques qu'il peut y avoir entre les deux instances. Nous n'avons pas la naïveté de croire que c'est notre honnête qui va faire évoluer la gouvernance, mais il y a à l'évidence des nouvelles idées à mettre sur la table et de nouvelles modalités de concertation pour qu'en cohérence, on puisse appréhender l'ensemble de ces problèmes.
Utiliser les signaux faibles pour éclairer la route, c'est bien de la mobilité.
C'est bien de la mobilité, oui.
Jean-Christophe, est-ce que vous considérez que vous avez fait le tour des principaux sujets avec les principales notes publiées, ou est-ce qu'il y en a encore sous le pied? Est-ce qu'il y a encore des en réserve? Et est-ce qu'on peut entrouvrir le coffre pour savoir avoir quelques pistes de réflexion à venir?
Un groupe prospectif qui penserait qu'il a regardé tous les sujets serait vraiment en faute. Alors, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on est en train de travailler. Le premier, c'est un peu l'émergence du fait qu'on a fait rentrer des jeunes chercheurs dans le groupe. Et on a une note qui est en train de se terminer sur le design économique. Et elle est co-rédigée par Étienne Riotte et Alice Fournier. Et pour moi, le fait qu'ils aient choisi ce sujet du design économique avec, en gros, l'idée d'essayer de relever un double défi. Comment faire des bâtiments qui, sur le plan économique, sont faisables, tout en ayant des bâtiments qui soient exemplaires sur le plan environnemental. On voit que c'est une préoccupation extrêmement forte des jeunes générations. Elles ne se posent plus la question de savoir s'il faut que les bâtiments soient responsables sur le plan environnemental, etc. Elles disent comment on associe ça avec les aspects économiques. Et cette note va chercher un certain nombre de sujets sur lesquels il semble possible de faire bouger les lignes. Alors, le thème est considérable. La note ne fera bien évidemment pas le tour du sujet, mais elle montre un ensemble de points, que ce soit sur les modes de financement, sur les modes d'assurance, sur la répartition de la plus-value au sein des projets, sur la prise de risque. Elle montre un certain nombre d'axes à travailler, parce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire sur les projets, sur les chantiers, à travailler pour réussir à associer cet aspect responsabilité et économie. C'est le premier sujet. La deuxième note qui est en cours, qui est au tout début, est une note sur la marche. Quand on a élargi le champ du bâtiment au territoire, se pose notamment la question de l'environnement du bâtiment, de cet environnement proche, et la manière dont la marche peut prendre une place, et comment le bâtiment peut contribuer à faire de la marche un élément de mobilité de qualité, qui soit à la fois efficace et de qualité, avec ce double enjeu de faire agréable et qui ait du sens. Et le dernier sujet, il porte sur quelque chose dont on parle beaucoup ces temps-ci. On entend des gens qui vous disent il faut construire plus. On a un gros enjeu, il nous manque X milliers de bâtiments neufs, il faut construire plus. Et puis à côté de ça, vous avez les prospectives, les travaux sur l'environnement. Et beaucoup de ceux-ci vous disent il faut construire moins. Et on a l'impression qu'il y a peu de débat entre ces deux sujets et qu'il est important de pouvoir essayer de trouver des voies qui permettent à la fois d'amener du logement, des bureaux, des locaux d'enseignement de qualité pour tous et en même temps de répondre aux enjeux environnementaux qui vont nous pousser à une forte sobriété. Donc ça, c'est un travail qui commence, qui va s'étaler sur plusieurs mois, sur construire moins, construire plus, quelle voie peut-on trouver intelligente et comment une vision d'acteurs indépendants des lobbies peuvent aider à imaginer des voies peut-être à explorer pour demain.
Tout ça donne envie, effectivement, d'en savoir plus. Alors, je voudrais clore très brièvement cet entretien, d'une part, en remerciant Christian Clairet et en soulignant le fait qu'il porte, depuis l'origine, toute la richesse, toute la diversité et toute l'évolution de ce groupe, y compris dans le choix de ses coprésidents, qui ont toujours été de très grande qualité. Et puis, en remerciant aussi Jean-Christophe Vizier, dont je n'ai pas dit qu'il était directeur de la prospective du CSTB, et dont je n'ai pas dit qu'une très grande étude prospective est en cours d'achèvement par le CSTB d'une part et l'ADEME d'autre part. Et évidemment, je voudrais lui proposer d'en reparler plus longuement dès que celle-ci sera publiée, si possible, quelques minutes après sa publication.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.